Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Clémentine. Bonjour Clémentine.
Bonjour Sarah, ben, moi c'est Clémentine, j'ai 29 ans et je suis orthophoniste depuis 2020, depuis 3 ans maintenant. Ça commence
Bientôt
à faire.
Ouais,
presque 4. Bon, alors j'étais diplômée en juin 2020, enfin juin-juillet. Et voilà, et depuis, ben, j'ai exercé dans plusieurs postes, en salariat, en libéral. Et là, actuellement, j'habite à Hanoï.
Ok.
Donc,
Et comment toi t'es arrivée en orthophonie?
Alors, je ne vais pas dire que c'était du hasard, mais en même temps, enfin, c'était pas une vocation depuis que je suis toute petite. Enfin, moi, à la base, bon, j'ai fait un bac ES et après, je voulais faire Sciences Po pour travailler dans la diplomatie, donc rien à voir avec l'orthophonie. Et donc, j'ai fait une prépa littéraire après le bac. Et en fait, bah, je sais pas, pendant la prépa, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, tous les métiers comme ça, de diplomatie, enfin en tout cas de relations internationales, c'était quand même assez compliqué en fait d'y rentrer. Donc du coup, j'ai commencé à me dire, il faudrait peut-être que je me réoriente quand même. Et bon, j'ai un peu honte parce que, enfin, franchement, c'est vraiment pas un truc de, comment dire, ouais, enfin, c'était vraiment pas une vocation à la base, quoi. C'est en fait, en gros, j'ai lu une revue type ONICEP qui expliquait un peu les métiers qui étaient intéressants. Et enfin, là, j'avais vu dans les métiers paramédicaux un concours accessible au littéraire, et c'était orthophonie. Et je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas? Moi, j'ai fait une prépa littéraire et tout. Et bon, après, je me suis quand même renseignée sur le métier. Enfin, je l'aurais pas fait, tu vois, si vraiment ça m'intéressait pas. Donc, je me suis renseignée. Et en fait, c'est vrai que j'ai bien aimé un peu cette idée de, comment dire, bah, tu vois, en fait, de métier quand même. Enfin, c'est un métier où on aide les gens, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un métier utile. Et bah, je trouve que c'est très gratifiant pour soi, en fait, de faire un métier comme ça. Et puis en même temps, j'aimais bien aussi tout l'aspect technique. Bah, en fait, enfin, moi j'adore la neuro et d'ailleurs, bah, j'ai travaillé en SSR après mon diplôme parce que j'adorais vraiment cet aspect-là. J'ai fait, bah, d'ailleurs mon mémoire, c'était un mémoire de recherche aussi neuro. Donc enfin, vraiment, ouais, c'était vraiment un aspect qui me plaisait. Et puis bah, en fait, j'aime bien aussi le contact avec les gens, quoi. Enfin, tu vois, j'aime bien les voir, leur parler, les voir progresser. Enfin, je trouve ça trop bien. Et voilà, donc c'est un peu pour toutes ces raisons que je me suis dit, bon, bah allez, l'orthophonie, ça va être chouette. Et donc après, j'ai fait une prépa orthophonie pour pouvoir avoir le concours. Et j'ai été à Toulouse pendant 5 ans.
Effectivement, je me souviens de toi.
Oui. J'étais la promo d'en dessous,
Tout ça. Et oui, effectivement. Alors moi, à ta place, j'aurais pas honte parce qu'en fait, il y en a plein, tu sais, qui m'ont déjà dit qu'elles s'étaient dirigées aussi orthophonie vers, enfin, grâce au concours. Parce qu'en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu ce truc de challenge parce que c'était un concours qui était réputé tellement difficile d'accès. Et c'est vrai aussi à la croisée de littéraire, scientifique. Et du coup, je pense qu'il y en a qui ont été intéressés par ça au début, par le challenge concours, et qui, du coup, après, se sont dirigés vers le métier. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas.
Ouais, c'est ça. Puis en fait, enfin, tu vois, il y avait aussi, bah, en fait, il n'y avait pas l'aspect non plus hyper, tu vois, hyper biologie, par exemple, ou, enfin, tu vois, ou je sais pas, ou même anatomie et tout, bah, que peuvent avoir d'autres concours dans le paramédical. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu l'image que j'en avais. Et c'est vrai qu'en fait, l'orthophonie, enfin, moi, c'est ce qui me semblait le plus accessible. Alors, ça restait un concours très difficile quand même, mais enfin, ouais, enfin, voilà, tu vois, là, j'ai des souvenirs de la prépa qui me reviennent en tête et je me dis, oh mon Dieu, c'était horrible. Mais enfin, moi, je trouvais que c'était faisable, en tout cas, à mon niveau. Donc, du coup, bon, aussi pour ça. Et puis, bon, bah, c'est quand même un métier où il y a vraiment beaucoup de besoins, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi rassurant. Bah, surtout dans le contexte actuel où on voit que c'est quand même assez compliqué d'avoir un métier qui fonctionne bien et tout qui marche. Enfin, moi, je sais qu'en orthophonie, A priori, normalement, je touche du bois, je ne devrais pas avoir trop de soucis pour pouvoir travailler. Et enfin, ça, je trouve ça hyper important de ne pas avoir cette charge mentale là, de se dire, mince, est-ce que je vais réussir à travailler demain, quoi.
Ouais, tu l'avais déjà en tête, cette sécurité de l'emploi, entre guillemets, comme du coup tu disais que tous les métiers de la diplomatie étaient peu accessibles. C'était ça aussi que tu avais en
Ouais.
tête, la sécurité de l'emploi?
Ouais. Ben, enfin, en vrai, moi, depuis le lycée, c'est un peu un truc qui me stresse. Enfin, je me souviens, à la base, je voulais faire du droit et tout. Et j'étais allée voir une conseillère d'orientation. Et en fait, j'étais avec ma mère. En fait, je pense que ça vient un peu de ma mère, tout ça. Et je me souviens que ma mère avait dit à la dame, mais est-ce que c'est bouché comme milieu, le droit et tout? Et en fait, enfin, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce truc en tête de, faut pas que j'aille dans un secteur qui soit bouché parce que sinon... Ben, je vais devoir me battre encore plus, quoi. Et enfin, bon, je sais pas, je me disais, je suis pas sûre d'avoir les capacités de le faire. Enfin, je trouve en fait qu'on se bat déjà pas mal pendant nos études quand même pour réussir, parce que c'est pas des études qui sont évidentes.
Oui.
Et j'aimerais bien, bah, après, voilà, quoi, pouvoir faire mon métier un peu en toute sérénité. Alors après, c'est pas que l'orthophonie, c'est pépère hein, non plus, c'est pas du tout ça l'idée. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas toujours évidentes, mais enfin voilà quoi, au moins se dire bah, bon bah, je fais un métier qui est utile, bah enfin qui est aussi passionnant, tu vois. Enfin moi par exemple j'aime beaucoup aussi l'aspect formation un peu en continu parce qu'il y a tellement bah, de nouvelles découvertes qui sont faites que bah, en fait ouais faut tout le temps te former pour bah, voilà pour te tenir au courant de bah, des nouvelles techniques de rééducation et ça je trouve ça trop cool. Et mais en même temps, enfin voilà quoi, a priori, on ne pourra pas être remplacé par des machines, normalement, j'espère.
En tout cas, pas pour l'instant, elles ne sont pas assez performantes.
Ouais,
Et toi, donc, du coup, tu es arrivée à Toulouse après ton concours et comment se sont passées tes études?
ça. Bah, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Alors franchement, j'étais loin d'être la meilleure élève de la promo, si jamais il y en a qui écoutent, ils savent très bien de quoi je parle. Enfin, franchement, honnêtement, j'étais pas la plus assidue et tout. Et en fait, enfin, bah, c'était comment dire, c'était des études quand même moi que j'ai trouvées pas évidentes. En fait, il y avait tellement de notions qui étaient complètement nouvelles. Enfin, moi, par exemple, tu vois, tout ce qui était matière, l'audition. Enfin, moi, voilà, j'étais très très nulle en audition. J'arrivais pas à comprendre le principe, le concept et tout. Ça m'intéressait pas. Tout ce qui était ORL et tout. Enfin, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'y intéresser. Bon, maintenant, je m'y suis mise parce que quand on travaille en SSR, on est obligé quand même d'avoir un peu des notions pour tout ce qui est trouble de la déglutition. Et mais enfin voilà, c'est vrai qu'en fait, il y avait plein de nouvelles matières hein, que je trouvais super difficiles. Et puis en fait, bah, tu sais, quand t'as pas un intérêt, comment dire, hyper
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 soutenu.
fort, ouais, voilà, exactement, hyper soutenu, bah, tu sais, t'as un peu du mal, enfin moi en tout cas. Après, je pense que ça dépend des gens, mais en fait, enfin, moi, je sais que quand je trouve pas ça hyper intéressant, bah, j'ai en fait, ouais, enfin, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Et ça, c'est vrai que c'était pas évident. Et puis, enfin, c'était aussi un rythme qui n'était pas facile parce qu'il y avait les stages, il y avait les cours. Enfin, il fallait faire quand même beaucoup de stages. Nous, on a été un petit peu sauvés quand même, je trouve, en 2020 parce que c'était l'année Covid. Et donc, du coup, bah, il y a une partie des stages qu'on a pu ne pas faire
Et
à
oui,
cause du
oui.
confinement. Et ça, c'est bête, mais enfin, moi, ça, enfin, par exemple, tu vois, ça m'a pas mal soulagée parce que du coup, ça m'a permis de vraiment consacrer aux mémoires à 100%. Et en fait, bah, on se rend pas compte, mais l'écriture d'un mémoire, tu vois, c'est aussi beaucoup de travail, mine de rien. Et enfin, voilà. Donc, c'est vrai que c'était, franchement, c'était des études hyper intéressantes. Et puis, en fait, enfin, même, je trouve qu'il y avait une bonne dynamique quand même dans la classe. On était hyper. Enfin, ouais, je trouve qu'on était vraiment des élèves. Bien, quoi, tu vois, enfin, moi j'aimais bien, en tout cas ma promo elle était chouette. Et puis bon, l'ensemble, franchement, des professeurs étaient aussi hyper intéressants. Enfin, moi, tu vois, j'ai vraiment des très bons souvenirs de certains profs qui étaient vraiment top, notamment bah, des orthophonistes en fait qui exerçaient et qui nous faisaient cours et c'était super. Et en même temps, ouais, c'est vrai que c'était pas facile, donc j'étais contente quand c'était terminé.
Ça faisait du bien après 5 ans
Ah
d'études.
ouais, franchement, au bout de 5 ans, t'es contente, tu te dis, oh là
Ouais.
là, enfin.
Ouais, 5 ans, pas plus, c'est bien.
Oui, voilà, ouais, exactement. 5 ans, c'est amplement suffisant. Moi, j'aurais
Ouais.
juste aimé qu'on développe un peu plus, je pense, l'aspect recherche, quoi. Parce que je trouve qu'il y en a vraiment besoin en orthophonie, et ça manquait un peu. Enfin, il me semblait normalement que la 5e année, c'était un peu l'occasion de pouvoir développer ça. Et en fait, enfin, on voit en fait qu'il y a une volonté de le faire. Mais
Oui.
c'est pas encore je trouve que c'est pas encore assez poussé.
Et
Mais
c'est
d'ailleurs
vrai
moi
que
après
c'est...
un master de recherche après
J'ai pas entendu, pardon.
enfin non et en fait moi du coup à cause de ça ben, j'ai enfin suite à ça, moi j'ai fait un master de recherche, c'était le master neurosciences cliniques et neuropsychologie, donc à Toulouse. Et
Oui.
bon, je ne l'ai pas eu parce que ma partie mémoire n'a pas fonctionné, mais enfin, par contre c'était hyper intéressant, franchement, j'ai vraiment appris plein de trucs hyper, hyper bien. Et ouais, tu vois, je ne regrette pas de l'avoir fait, quoi, parce que c'était un peu, je pense, la partie qui me manquait justement pendant les études.
Ou t'aurais aimé en avoir un petit peu plus, ouais.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'imagine que c'est compliqué à mettre en place en sachant qu'il n'y a pas de doctorat en orthophonie encore. Et ouais, du coup, tu es obligé de te diriger vers d'autres filières, donc là, neuropsy. Et donc ça, neuropsy, tu l'as fait directement après tes études?
Ouais, directement après le diplôme d'orthophonie, bah en fait, je lui disais, tant que tu es encore dans la dynamique des études, reste-y, parce que je pense que quand tu arrêtes, que tu commences à travailler, après, c'est très très compliqué de s'y remettre. Enfin, là, tu vois, là, si tu me demandais de reprendre les études, je pense que j'aurais pas du tout. Un DU à la limite. Et
Ouais.
franchement, ce serait vraiment le grand maximum. Parce qu'en fait, bah après, quand tu es dans la vie active, hein, tu as tellement de choses auxquelles tu dois penser que, ouais, en fait, le fait là de se remettre dans les études, enfin, quand même, les études, c'est une sacrée charge mentale, quand même, tu vois, je trouve, pour l'étudiant, quoi. Enfin, tu as vraiment plein, plein de choses à faire. Et puis, en plus, c'est beaucoup de stress parce que tu veux réussir tes examens et tout. Enfin, ouais, franchement, ouais. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, on y va juste après le diplôme d'orthophonie, comme ça, on est encore dans une
Directement.
clinique.
Et de mémoire, la neuropsie, c'était pas à temps plein. Donc, est-ce que tu avais commencé à travailler déjà? Ou est-ce que tu
Ouais,
travaillais?
ouais, ouais. Ben justement, c'est là que j'ai commencé à travailler à Fresnes, en fait, à l'hôpital de la prison de Fresnes. Ce qui s'est passé, c'est que, oui, en gros, le master, bon, c'est quand même un master assez prenant, hein, le master de recherche, là, parce que, ben, t'as quoi? T'as 3, 4 mois de cours intensifs, et en fait, après, ben, t'as ton stage de recherche à faire dans un laboratoire, et puis, ben, t'as quand même un mémoire à produire à la fin de l'année, donc c'est assez prenant. Mais moi, c'est vrai que ben, je me suis dit, bah, OK, je fais ce master de recherche, mais j'aimerais bien quand même pouvoir commencer à travailler, parce que je ne veux pas perdre la main de l'orthophonie, en fait. Enfin, tu vois, en plus, ben, justement, à cause du confinement, on n'avait pas pu faire tous nos stages, on n'avait pas pu les mener jusqu'au bout. Et du coup, enfin, moi, je ne voulais pas rester trop longtemps sans être au contact de patients.
Oui.
Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Fresnes. C'était complètement du hasard et c'était pas du tout ma volonté au début de travailler dans une prison.
Et justement, est-ce que tu peux nous dire comment t'as atterri à la prison de Fresnes?
Complètement par hasard. En gros, j'avais mis une annonce sur un des groupes orthophonie, je sais plus lequel c'était, ça devait être Petites Annonces d'Orthophonie, quelque chose comme ça. Où en fait, bah, j'avais expliqué que j'étais fraîchement diplômée et que, en fait, à la base, moi, je recherchais déjà un emploi, en fait, pour travailler pendant l'été, mais en fait, je recherchais un remplacement pour
D'accord.
travailler pendant les vacances d'été, parce qu'après, bah, après, c'était la rentrée, je commençais le master. Et là, il y a une ancienne maître de stage à moi qui m'a répondu, Virginie, je te salue si tu écoutes le podcast. qui m'a envoyé un message qui m'a dit, écoute, moi, j'ai pas un poste à te proposer pour les 2 mois d'été, enfin, en tout cas pas en temps plein. Par contre, je travaille 4 heures à l'hôpital de Fresnes, c'est un SSR. Elle m'a juste dit ça, elle m'avait pas du tout
Oui.
précisé ce que c'était. Et du coup, si ça t'intéresse, écoute, enfin voilà quoi, dis-le-moi. Et donc, bon, moi, au début, je sais pas, elle m'a dit hôpital de Fresnes. Bon, moi, Fresnes, je connais très peu parce que, si je dis pas de bêtises, c'est dans le 94. En fait, c'est dans le sud de la région parisienne et moi, je suis plutôt du nord de la région parisienne. En gros, on a juste un RER en commun, mais c'est tout, quoi. Enfin, vraiment, moi, je connais pas du tout, du tout, du tout cette
Oui.
partie-là de la région. Mais bon, je m'étais dit, bah, à Fresnes, c'est accessible en RER, donc c'est nickel pour moi. Et donc, voilà, quoi, je lui explique que je suis complètement intéressée, surtout que c'est un SSR, donc je lui dis, bah, parfait, ça va être de la neuro et tout, donc c'est trop bien.
Oui.
Et elle m'appelle et elle me dit, oui, Clémentine, bon, du coup, j'ai vu que tu étais intéressée, mais il faut que je te parle de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a à Fresnes? Enfin, ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à Fresnes qu'il n'y a pas ailleurs? Et je lui dis, je sais pas, une prison? Elle me dit, eh ben voilà, bingo! L'hôpital de la prison de Fresnes!
Donc ouais, elle t'avait pas du tout expliqué avant, en fait, tu l'as appris à ce moment-là.
Ouais. Bon, en fait, après, moi, j'avais pas encore dit oui pour y travailler, mais bon, j'ai quand même dit que
Ouais.
j'étais intéressée et tout. Et là, en fait, elle a commencé à me vendre l'hôpital. Elle m'a dit, écoute, franchement, je sais que ça donne pas envie parce que c'est une prison, Écoute, les locaux, une partie des locaux a été refaite à neuf. Les équipes sont vraiment super. Voilà quoi, les kinés, les neuropsies. Enfin, franchement, il y a une bonne équipe de paramédicaux qui est hyper sympa. Les médecins sont sympas. Les cas, en fait, c'est quand même des cas hyper intéressants. Et puis, donc là, elle m'explique, enfin, bah, voilà, en fait, qu'il y a un petit peu de tout, quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment un SSR neuro, quoi. Donc, du coup, c'est des gens que tu suis pour des maladies neurodégénératives, pour des personnes aussi qui ont un AVC ou alors un trauma crânien. Il y a beaucoup de trauma crânien parce que, il y a beaucoup de bagarres en prison. Donc, du coup, voilà, ça fait pas mal de traumatismes crâniens. Et donc, elle m'explique tout ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas? En fait, c'était 4 heures par semaine. Donc, en plus, ça m'intéressait parce que je dis 4 heures par semaine, c'est bien. Ça me permet quand même de bien travailler le master à côté. Et puis, de quand même garder un pied dans l'orthophonie, quoi. Et moi, c'était absolument ce que je voulais.
Oui.
Donc, je lui ai dit que j'étais OK. Et voilà. Et donc, après, je suis allée visiter les locaux. J'étais avec elle. J'ai rencontré les équipes. Ça s'est super bien passé. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Génial. Est-ce que tu peux
Ouais.
nous expliquer ce que moi, je t'avoue que je ne sais pas du tout comment ça se passe en prison. Et je me dis que peut-être j'ai des a priori ou des stéréotypes en tête. Déjà, comment ça se passe toi quand tu dois rentrer? Est-ce qu'il y a des contrôles de sécurité? Est-ce que
Oui.
tu peux circuler comme tu veux? Enfin, je ne sais pas trop.
Plein de contrôle. Alors après, Fren, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on n'est pas dans la prison même. En fait, si tu veux, enfin, c'est. Fresnes, c'est un peu comme une mini-ville dans la ville. Du coup,
D'accord.
tu as plusieurs bâtiments. Tu vas avoir la maison d'arrêt des femmes, la maison d'arrêt tout court, la prison centrale. Donc là, vraiment pour les peines un petit peu plus longues. Et en fait, au milieu de tout ça, tu as l'hôpital, ce qu'on appelle le PSNF, qui est... Attends, le PSNF, établissement pénitentiaire EPS, de santé nationale français. Il me semble que c'est
OK.
ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et en gros, c'est l'hôpital pénitentiaire pour toutes les prisons françaises. C'est-à-dire
D'accord.
que, en fait, c'est pas que les prisonniers de Fresnes qui y vont, c'est vraiment tous les prisonniers, même ceux, par exemple, tu vois, qui viennent des dom-toms, ils vont à Fresnes. Et en
D'accord.
gros, ce sont des détenus qui vont quand leur état n'est pas, comment dire, n'est pas. En accord, enfin, en gros, quand ils sont trop diminués, entre
Oui.
guillemets, pour pouvoir être dans des conditions de détention normales.
Ouais, si c'est pas compatible avec ce que leur état de
Voilà,
santé peut leur
exactement.
permettre.
Merci. C'est tout à fait le
Ouais,
mot que je cherchais,
d'accord,
compatible. Voilà. Si leur état n'est pas compatible avec la détention, bah, du coup, ils viennent dans cet hôpital-là
d'accord.
bah, pour se faire soigner. Voilà.
Ouais, ok.
Donc en fait, enfin moi déjà, je suis dans l'hôpital, je suis vraiment pas du tout dans la prison en elle-même. Après, ça reste un hôpital pénitentiaire, donc bah du coup, ouais, t'as beaucoup de contrôle. Enfin, t'as beaucoup de contrôle. En gros, quand tu rentres, bon bah déjà, il faut quand même que tu montres ton identité. T'as un badge pour montrer que t'es bien d'ici. Il faut que tu laisses ton portable dans un casier. T'as certainement pas le droit de ramener
Ah
ni
ouais.
téléphone, ni enregistreur, ni magnétophone, sauf si en fait t'as une dérogation particulière parce que c'est pour tes rééducations. Et ça,
D'accord.
c'est quand même que c'est assez intéressant. Pas
Ouais.
le droit non plus d'avoir d'appareil photo. Enfin, en gros, tu as tout ce qui pourrait donner des informations sur le lieu où tu es, tout ce qui
Ah.
pourrait compromettre des informations, en fait, c'est interdit. Tu
OK.
vois, de la même manière, même au niveau des appels, tu passes pas tes appels librement. C'est vraiment hyper, hyper contrôlé. Et après, ouais, donc après, bon, bah, du coup, tu passes un petit peu comme un portique de sécurité à l'aéroport. Donc, il y a ton sac qui est passé au rayon X. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça,
Ouais.
mais en tout cas, voilà. Et puis, toi, tu passes en fait à travers une sorte de portique voilà, qui détecte si tu n'as pas oublié des trucs sur toi, quoi.
D'accord, OK.
Donc, c'est hyper sécurisé. Puis, en fait, après, c'est ça aussi, je pense, qui change d'un hôpital classique, c'est que toutes les portes, en fait, à chaque fois, elles se verrouillent derrière toi, quoi. Il n'y a pas, tu vois, de porte ouvertes et tout. Enfin, ça n'existe pas. Tout est toujours fermé.
D'accord, OK. Donc à chaque fois, tu dois avoir ton badge et tu dois rebadger à chaque fois qu'il y a une porte.
Ouais, tout le temps, tout le temps.
D'accord,
Alors, non,
OK.
en fait, enfin, non, après, pour la porte, en gros, toi, tu sonnes. Et en fait, après, tu sais, c'est un peu comme dans les banques, là, quand tu veux rentrer dans une banque,
Ah,
tu sais, tu
d'accord.
sonnes. Et en fait, après, il y a un truc qui t'ouvre et tout.
OK.
Voilà.
Et est-ce que du coup, c'est quelque chose qui prenait du temps, ça, sur ton temps?
En fait, oui, c'est quand même, ça prend du temps. Enfin, tu vois, à la fin, super bien. Ça va faire un an là que j'y suis plus, mais je pense que ouais, ça prend bien 10 minutes, quand même 10 minutes, un quart d'heure, le temps que tu
Oui.
passes tout. En plus, vraiment, mon bureau, il était au premier étage, donc après, il fallait que je monte les étages et tout, tu vois. Et puis en fait, enfin même, tu sais, parfois, tu sonnes à la porte pour qu'on t'ouvre et en fait, tu attends longtemps avant
Ah,
qu'on t'ouvre
d'accord.
la porte parce que j'imagine que les surveillants, en fait, ils sont occupés à faire autre chose, donc ils ne voient pas que
Oui.
tu sonnes, donc toi, t'attends comme ça. Donc ouais, franchement. En tout cas, c'est ce que Virginie, donc ma prédécesseure, m'avait dit. Elle m'avait dit surtout, ne programme pas une séance à ton heure de commencement parce que tu n'y seras jamais.
Ouais.
Alors vraiment, programme
Un peu plus
bien
loin.
10 minutes, un quart d'heure après, quoi, pour être
Ouais.
sûr d'être bien.
Et alors, tu vois, tu étais en libéral et tu faisais des vacations là-bas, ou est-ce que tu étais salarié?
J'étais. Alors, oui, en fait, j'avais un statut de vacataire, mais en fait, c'était eux qui me payaient, du coup.
D'accord.
Voilà, oui, c'était ça en fait. Oui, j'avais un statut de vacataire, c'était eux qui me payaient, et en fait, après, moi, je payais des impôts dessus. Donc, après, enfin, oui,
Ouais.
moi, j'ai jamais trop su si j'étais libérale ou quoi, mais enfin, en tout cas, enfin, j'étais pas non plus considérée comme une salariée. En gros, les heures que je faisais, elles étaient payées. Si je faisais pas mes heures, elles n'étaient pas payées.
D'accord, ok. Donc,
Voilà.
ouais, t'avais pas non plus de congés payés ou de choses comme ça.
Non, 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 voilà,
D'accord,
exactement.
ok.
J'avais pas de congé payé et en fait, à chaque fois, j'avais des CDD qui étaient renouvelés tous les ans.
Ah,
Et ça
d'accord, donc ouais, il y
faisait.
avait quand même des contrats, ouais. Ok.
Ouais. Et du
D'accord.
coup, j'ai signé 3 CDD, je crois, d'un an à chaque fois. Ouais, c'est ça.
D'accord, donc ouais, t'y restais un moment alors.
Ouais, du coup, c'était mon premier poste et j'y suis restée 2 ans et demi. Ouais, c'est ça, 2 ans et demi. Parce que, en fait, mon troisième CDD, je l'ai arrêté en plein milieu pour partir au Vietnam, justement. Mais voilà.
Ok, et qu'est-ce que tu verrais comme différence la plus notable entre un hôpital classique, donc j'imagine que tu avais fait des stages en hôpital aussi avant pendant les études, donc en hôpital classique et là l'hôpital de Fresnes.
Alors même en fait après pour avoir travaillé en hôpital parce qu'après dès que j'ai fini mes études enfin en fait dès que j'ai fini le master après en fait j'ai alterné entre Fresnes et un hôpital classique et c'était aussi
Ah
en
d'accord.
SSR. La différence notable c'est déjà la présence quand même de surveillants partout.
Ouais.
Il y a vraiment, vraiment des surveillants partout. Parce qu'après, c'est normal. Hein, je veux dire, on est aussi quand même avec des détenus. Et même si. Franchement, il n'y a jamais eu vraiment de vrais problèmes avec eux. Enfin, il y a eu parfois un peu des débordements, mais je veux dire, ça restait quand même contrôlé.
Ouais.
Ouais, il y a vraiment des surveillants partout. Et puis, en fait, aussi, tu n'as pas le contact avec les familles, quoi. Tu vois,
Ah.
si jamais, tu vois, à un moment donné. Enfin, moi, parfois, tu vois, je trouve que c'était quand même intéressant. Alors, ça ne m'est pas toujours arrivé quand j'étais dans un hôpital classique. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant, tu vois, parfois de pouvoir communiquer avec la famille, de leur dire, voilà, je fais ça avec ce patient-là, avec le membre de votre famille. Après, en fait, tu vois, c'est des personnes que tu vas voir 3-4 fois dans la semaine, franchement, au maximum. Et enfin, si tu arrives à les voir 3-4 fois dans la semaine, c'est bien. Voilà,
D'accord.
déjà, après, je les voyais une à deux fois parce qu'en fait, après, mon contrat a augmenté, donc j'y allais 2 demi-journées par semaine. Mais enfin, voilà, tu vois, j'y voyais 2 fois maximum. Mais bon, tu vois, 2 fois, 1 heure d'orthophonie. Donc ouais, ça fait quoi? Ça fait 2 heures d'orthophonie dans la semaine. Comparé au volume horaire d'une semaine, tu vois, qu'en fait, c'est rien. Et donc, c'est vrai que c'est agréable aussi, tu vois, parfois, de pouvoir communiquer avec les familles et de leur dire, voilà, je fais ça, ça serait bien que vous, quand vous voyez cette personne-là, vous puissiez en fait faire ça avec elle, ou en fait, enfin, même juste dire les avancées. Enfin, je pense que c'est intéressant aussi pour eux de savoir. Et ouais, donc ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas le contact avec les familles. Donc ça, c'est quand même un truc qui change.
Ouais. Et là,
Et
par
après.
exemple, tu disais que ça serait bien que les familles puissent reprendre. Enfin, t'aurais bien voulu, toi, dire aux familles, est-ce que vous pouvez reprendre ça avec lui? Ce que je me demande, là, les familles, tu sais si elles les voyaient beaucoup, les détenus?
Ça dépend. Alors, je suis en train de réfléchir à certains cas. En fait, tu avais des détenus qui ne pouvaient pas voir leur famille du tout, parce que
Ah,
soit ils avaient
d'accord.
donné un faux nom. Donc, du coup, en fait, comme ils donnent un faux nom, nous, on ne sait pas qui est leur famille, donc on ne peut pas les contacter.
D'accord.
T'en as, ouais, c'était ça. D'autres, en fait, qui avaient vraiment des conditions de détention très particulières, ils ne pouvaient voir personne.
D'accord.
Donc en fait nous enfin vraiment tu vois enfin c'est en fait on sait même pas je pense qu'il y en avait quelques-uns quand même qui voyaient la famille mais pas plus que ça finalement
Ouais, ok.
en tout cas moi parmi mes patients pas tant que ça j'ai l'impression
Ouais, d'accord. Et donc justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des patients? Est-ce que C'était que des détenus identifiés hommes? Est-ce qu'il y avait des femmes aussi? Enfin, du coup, c'était quoi?
Bon, il y a quand même une grosse majorité d'hommes.
Oui.
Franchement, si je vais faire un ratio, je dirais 95% d'hommes, 5% de femmes.
D'accord, ok.
Comme l'orthophonie, mais à l'envers.
C'est ça.
Et en fait, après, il y avait vraiment de tous les âges. Enfin, moi, tu vois, j'ai eu des très jeunes, j'ai même des plus jeunes que moi, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu... Ça fait un peu de la peine pour eux, quoi, parce qu'en fait, tu les vois, en plus, moi, je veux dire, j'ai, ouais, ils sont vraiment diminués, tu vois, enfin, c'est vraiment des personnes qui ont eu un AVC, qui ont eu un traumatisme crânien, enfin, franchement, c'est quand même des trucs assez durs, et tu les vois comme ça, à ton âge, voire plus jeune, hyper diminués, c'est pas facile. Il y avait aussi des détenus beaucoup plus âgés, dans les 70-80 ans. T'en as en fait aussi, enfin, c'est là aussi que tu vois quand même que la détention, ça marque les gens. Il y en avait, je pense, qui devaient avoir l'âge de mes parents, mais qui en faisaient facilement 20 de plus, tu vois,
Ah
et ça, c'est
oui.
vrai que c'est aussi assez marquant. Donc, ouais, non, enfin, c'est quand même une population assez variée.
Oui.
Mais moi, après, tu vois, ce que j'ai constaté, c'est que franchement, ils étaient toujours hyper motivés pour faire les séances, et ça, franchement, c'était très, très agréable, quoi. En
Oui.
même temps, je pense que tu vois, ça leur montrait un peu autre chose que seulement la détention, quoi. C'était un peu comme un échappatoire, je pense.
Ouais. Et justement, comment il te montrait cette motivation? Est-ce que c'était dans les demandes? Est-ce que c'était dans l'implication dans les séances, en dehors des séances?
Dans l'application, dans les séances, tu en avais aussi ouais, qui étaient hyper impliqués en dehors des séances. Et tu vois, du coup, à qui je pouvais donner des exercices à faire en chambre, et ils les faisaient, et ils revenaient,
Trop
ils me disaient,
chouette.
voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, franchement, c'est super chouette. J'en ai
Ouais.
un là, en fait, qui était hyper motivé, qui me disait qu'il récitait des poèmes tout seul dans sa chambre et
Ah,
tout. Enfin, lui, il a
génial.
eu un gros problème de voix et tout, suite à une tentative de pendaison. Voilà. Il a eu un gros problème au niveau des cordes vocales, mais enfin bon, et pas que, quoi. Enfin, il y avait eu plein plein de choses. Et donc, je travaillais avec lui notamment la voix, le souffle et puis en
Oui.
fait aussi la déglutition parce qu'il avait beaucoup de mal à manger normalement.
OK.
Et ouais, enfin, tu vois, ouais, j'ai vraiment là en tête ce patient détenu, comme on les appelait, et enfin, vraiment, ouais, vraiment, tu vois, qui était très motivé. Et puis au-delà de ça, en fait, nous aussi, on faisait des ateliers. En gros, enfin moi par exemple, on faisait équipe avec une neuropsychologue et avec aussi les ergothérapeutes de l'hôpital. Et en fait, on faisait ce qu'on appelle des groupes de cognition sociale.
Ok.
Et franchement, c'était hyper intéressant. Et donc là, en fait, tu vois, on réunissait plusieurs patients détenus entre eux. Et en fait, on faisait des exercices vraiment de groupe, tu vois, où du coup, ça les forçait un peu à sociabiliser entre eux en dehors de
Oui.
la place, ce qui est quand même pas mal, tu vois. Puis en même temps, ça les faisait travailler. Enfin, c'était hyper intéressant. Il y avait des niveaux, c'était assez disparate au niveau des niveaux, mais en fait, c'était bien parce qu'il y en avait du coup qui ça les élevait un peu. Et puis d'autres, ça les forçait aussi un peu à se mettre à hauteur de personnes qui ont. Enfin, ouais, qui sont un petit peu plus faibles qu'elles, quoi. Et franchement, enfin, tu vois, enfin, j'ai rarement vu, t'en as, tu vois, hein, des personnes qui n'ont pas du tout envie de venir et qui te le font comprendre et qui, du coup, en fait, quand le surveillant va les chercher pour les amener dans ton bureau, disent, non, je ne vais pas y aller. Mais honnêtement, enfin, tu vois, moi, par exemple, quand je pense à ce groupe, la plupart, ils étaient super motivés, très contents de venir. Et même moi, en séance, il y en a peu, finalement, qui ne voulaient pas venir.
Ouais. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, j'imagine que tu vois d'autant plus un intérêt de te dire, et ton utilité aussi, de te dire que bah, déjà, enfin, c'est compliqué l'accès aux soins, mais en plus, là, ils ont l'accès aux soins, ils sont motivés, donc c'est trop chouette.
Ouais, non, franchement, ça c'est vrai que c'était cool. En fait, c'était assez motivant, quoi, parce que du coup, toi, tu les vois et tu te dis, ils sont contents d'être là. Et en fait, ça, c'est pour n'importe quelle rééducation, je pense, tu vois, quelle que soit la personne, quand la personne en face de toi, elle est motivée et qu'elle veut que ça fonctionne, c'est toujours plus agréable, quoi. Enfin, toi, au moins,
Ouais.
t'es content d'être là et tout le monde est content et la rééducation, elle avance bien en plus, en général.
Ouais, c'est clair. Comment ça se passait pour tes rendez-vous? Est-ce que c'est toi qui fixais tes horaires, tes rendez-vous, ou est-ce que c'était la prison qui le fixait?
C'est moi
Enfin,
qui
l'hôpital.
fixais mes horaires, mes rendez-vous. En gros, en fait, on avait une sorte de. Je pense que c'est comme ça dans tous les. Oui, en fait, c'est comme dans tous les hôpitaux, finalement. C'est en gros, c'est une sorte d'agenda commun où, du coup, tu vois les rendez-vous de chacun. Et donc, toi, tu choisis ton patient, tu te dis, voilà, tel jour, il a ça comme rendez-vous. Moi, je vais me caler là. Enfin, donc, après, tu fais ça aussi en bonne intelligence avec les autres
Ouais.
thérapeutes. Mais oui, en fait, c'est vraiment toi qui décides de quand est-ce que tu vois le patient. Après, tu essaies de faire en sorte que ça soit à une heure arrangeante. Par exemple, bah, tu évites de faire ça pendant les parloirs, pendant aussi les, j'allais dire, les récréations, n'importe quoi, les promenades, pendant les heures de promenade. Et mais oui, non, c'est vraiment toi qui décides. Enfin, en fait, finalement, l'hôpital, ils interviennent pas trop, tu vois, dans le processus. Enfin, je veux dire, en tout cas, la direction, puis en fait, même, tu vois, tout l'aspect pénitentiaire, ça intervient pas des masses dans l'organisation, tu vois, bah, de toi, de tes séances et de ce que tu fais, quoi. Enfin, c'est eux, ils sont vraiment là pour la sécurité, mais ils interfèrent pas avec toi par rapport à la rééducation en elle-même, quoi.
Ouais,
Si tu
ok.
dis que tu dois voir un patient, je sais pas, deux fois dans la même journée, bon, ça arrive jamais, sauf si tu fais un essai repas et qu'après tu le vois après pour faire une séance différente, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux le faire et personne te dira, bah non, tu l'as déjà vu deux fois. Enfin, c'est ridicule, quoi. Donc, c'est pas
Et est-ce
agréable.
que tu arrivais à avoir du lien avec les autres professionnels de santé?
Ouais, franchement, mais il y avait une très très bonne ambiance dans l'équipe. Franchement, moi j'ai adoré. Enfin, je pense que c'était la meilleure équipe que j'ai eue pendant toutes mes expériences. Enfin, ils étaient vraiment tous sympas. Je pense qu'en fait, bah, le fait de travailler dans un milieu comme ça, quand même, qui est assez particulier, tu vois. Enfin, c'est dur. Et même, tu vois, si t'es pas censé savoir ce que les personnes ont fait pour être incarcérées, bah, en fait. Parfois, tu sais, bah parce que soit eux, ils te le disent directement, ou alors tu l'apprends parce qu'il y a des bruits de couloir, parce qu'il y a un médecin qui est au courant, qui te le dit, tu vois, parce qu'il te dit, bah attention, lui, il est un peu dangereux, enfin, fais gaffe quand même, tu vois. Et du coup, bah, je pense que le fait qu'on soit comme ça dans un milieu un peu particulier, ça resserre aussi un peu plus les liens, parce que du coup, en fait, on se soutient vachement, et puis en fait, on parle aussi de nos patients en commun, et on se dit, bah voilà, moi, il s'est passé ça en séance, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je devrais faire? Enfin, franchement, il y avait une super entente. Et ouais, enfin moi franchement j'ai adoré mon équipe.
Oui.
Vraiment, c'est trop top. Ouais.
Et quand tu disais à d'autres gens, donc pas du tout, qui travaillaient pas du tout dans le pénitencier, quand tu leur disais que tu travaillais là-bas, qu'est-ce que les gens avaient appris comme a priori un petit peu?
Ah bah par exemple, tu vois, si je pense à mes parents, ils étaient
Oui.
absolument inquiets de me savoir là-dedans. Hein. Enfin, bon, tu vois, en
Oui.
plus, une fois, ils ont vu un reportage, bah, justement, en plus, sur la prison de Fresnes. Alors, c'était la prison de Fresnes, c'était pas l'hôpital de Fresnes. Ils ont vu ça, ils m'ont dit, non, mais Clémentine, il faut que tu arrêtes de travailler là-dedans et tout, parce que c'est vraiment des malades qui sont incarcérés. Non, franchement, ça va pas du tout. Donc, c'est des réactions, bah, en fait, assez surprises.
Oui.
Même la plupart du temps, ils étaient assez surpris parce qu'en plus, bah, c'est vrai que, enfin, moi, tu vois, en plus, voilà, je pense que je suis assez jeune, je pense que, tu vois, en fait, je peux avoir vite l'air aussi un peu impressionnable, quoi. Donc, du coup, je pense que les gens, ils étaient surtout inquiets, en fait, de me savoir là-dedans. Après, il y en a aussi qui étaient surpris, qui me disaient, mais c'est fou qu'ils aient accès à des soins en prison.
Ouais.
Moi, je trouve ça bien. Enfin, je me dis, en fait, voilà, quoi, si on incarcère des gens, ben, en fait, je pense qu'il faut les accompagner jusqu'au bout, tu vois. Enfin, même malgré tout ce qu'ils ont pu faire, enfin, je veux dire, à partir du moment où on décide de faire de l'incarcération, enfin, voilà, quoi, je veux dire, d'incarcérer les gens, bah ouais, en fait, si ça va pas, on est là pour eux aussi. Enfin, ça me paraît normal, ça
Oui.
reste des citoyens quand même.
C'est ça.
Et enfin, voilà, donc c'était un peu les deux réactions que j'avais. C'était vraiment un peu l'inquiétude, je pense, bah, parce que enfin, voilà, ça reste un milieu pénitentiaire et enfin, ça reste des personnes quand même qui sont incarcérées, pas pour rien en général. Et puis aussi, ouais, de la surprise de se dire, ah ouais, mais ça existe en fait, il y a vraiment de l'orthophonie, enfin, l'orthophonie, en fait, même des soins finalement pour tout le monde, quoi. Tout le monde peut être soigné.
Ouais.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu répondais justement quand on t'émettait ces inquiétudes ou ces interrogations?
Bah moi j'essayais quand même d'être assez rassurante parce que franchement alors ça dépendait comment dire, je vais pas dire je me suis toujours sentie en sécurité à 100%, tu vois, mais en fait par exemple bah, une séance, donc moi j'avais mon propre bureau
Oui.
et donc en fait moi je faisais ma séance seule avec le patient qui était pas menotté ni rien, enfin je veux dire en fait il se présentait vraiment comme un patient classique, il n'y avait rien.
Oui.
Mais en fait, il y avait quand même un surveillant, tu vois, qui était dans le couloir où on était quand même pour surveiller. On a aussi un bouton d'urgence au cas où.
D'accord.
Et en fait, bah ça, quand même, tu vois, c'est déjà assez rassurant, je trouve, quand tu sais ça, parce qu'au moins, tu sais que en cas de problème, a priori, tu as quand même de quoi faire.
Oui.
Et puis, euh, Et puis, enfin, c'est moche hein, ce que je veux dire, mais en fait, c'est quand même des personnes qui sont pour la plupart extrêmement diminuées, quoi. Donc, enfin, franchement, il y a très très peu de chances, tu vois, d'avoir, enfin, très peu de risques plutôt, tu vois, qu'il se passe quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, c'est des personnes en fauteuil roulant, enfin, tu vois, qui sont vraiment pas, qui représentent pas de danger, en tout cas, a priori, quoi.
Là, tu parlais d'un patient en particulier?
Non, enfin, franchement, tous les patients, tu vois, la plupart, ils étaient, enfin, franchement, ils étaient, en plus, enfin, ils étaient vraiment sympas, enfin, ouais, vraiment
Oui.
sympas, et puis contents d'être là, quoi, tu vois, donc,
Oui.
du coup, ils n'avaient pas du tout de, comment dire, enfin,
Pas
franchement, ils n'avaient pas du tout à avoir
d'agressivité envers toi.
d'animosité, quoi,
Oui.
ouais, bah, en fait, tu vois, il y en a eu un qui a été agressif avec moi une fois.
Oui.
Et en fait, enfin, c'était pas vraiment dirigé contre moi, c'était plus en fait de la frustration. C'était un monsieur qui était jeune, hein, d'ailleurs, qui avait la trentaine, qui avait eu un traumatisme crânien et qui en fait n'arrivait plus à parler. Enfin, vraiment, il se faisait pas comprendre parce qu'il avait beaucoup de stéréotypies, tout ça. Enfin, vraiment, en fait, il disait juste homme-femme tout le temps, tu vois. Enfin,
D'accord.
c'était ses seuls mots. Il faisait des phrases avec ça. Enfin, il tentait, quoi. Et puis, bah, nous, forcément, on comprenait rien. Et en fait, il était tellement frustré qu'une fois, en fait, il s'est énervé dans mon bureau et enfin, il était hyper en colère.
Oui.
En fait, il avait commencé à déchirer une feuille devant ma tête. Et enfin, moi, je trouvais juste que ses mains étaient un peu trop proches de ma tête. Donc, j'étais pas hyper rassurée. Mais bon, après, j'ai fait sortir et ça allait très bien. Mais
Oui.
tu vois, enfin, c'est vraiment la seule, enfin, vraiment le seul moment où j'ai eu très, très peur, quoi. Tu vois, enfin, sinon, la plupart du temps, il n'y avait vraiment rien à signaler. Et, enfin, ouais, non, franchement, la plupart des patients étaient vraiment top.
Ouais,
Donc.
et puis en plus, j'imagine que, enfin voilà, du coup, ils savent que là, toi, t'es là pour eux, pour les aider.
Oui! C'est ça, ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc en fait, même ils sont plutôt reconnaissants, tu
Ouais.
vois. Enfin, ouais, franchement, je pense qu'ils étaient contents de ça. Et puis encore une fois, tu vois, franchement, l'incarcération, c'est pas rigolo, tu vois. Enfin, je veux dire, ils sont vraiment enfermés dans leur chambre toute la journée, tu vois. Juste, ils regardent la télé, enfin, ils n'ont pas d'interaction avec personne. En plus, ils sont seuls dans leur chambre d'hôpital parce que, bah, comme ils sont malades et qu'ils ont chacun un peu leur truc, bah, ils ont vraiment une chambre à eux à chaque fois. Donc, je pense qu'ils sont contents aussi. Enfin, je ne veux pas parler à leur place et tout, mais moi, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est qu'ils étaient contents, mais de voir bah, déjà d'autres personnes, de
Oui.
pouvoir aussi échanger sur d'autres choses. Et puis, tu vois, aussi, enfin, bah, juste savoir qu'on s'occupe d'eux. Enfin, parce que c'est quand même, moi, en tout cas, j'en avais beaucoup bah, des patients, des détenus, surtout des jeunes, enfin, tu sais, qui avaient vraiment grandi dans des milieux très, 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 très violents, en fait, avec beaucoup de violence, d'agressivité. Et en fait, je pense qu'ils étaient contents aussi de voir que, ben, en fait, on peut avoir d'autres interactions que seulement la violence.
Oui.
Et, enfin, voilà, quoi, qu'on peut avoir des interactions portées sur le soin, qu'on est là aussi pour les aider. Enfin, ben, tu vois, il y en avait même qui avaient des paralysies faciales, tu vois, que je devais masser au niveau du visage. Je n'étais pas hyper rassurée, j'avoue, quand je faisais ça. Mais en fait, ben, eux, tu sentais que ça leur faisait beaucoup de bien aussi, tu vois, qu'ils
Ouais.
étaient contents d'avoir ça, quoi.
Ah, c'est super. Toi, tu dirais que ça a changé ta façon de voir les choses, ta façon de travailler, de d'avoir bossé là-bas?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que oui. Après, je pense que j'en ai pas encore entièrement conscience.
Oui.
Mais bah, par exemple, tu vois, ça aide à prendre du recul sur pas mal de choses. Et en fait, bah, après, c'est vrai que quand tu es là-bas, par exemple, enfin, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais c'est vrai que bah, tu sais, tu es un peu obligé de te blinder quand même par rapport à tout ce que tu vois. Et bah, du coup, enfin, moi, ça me forçait à avoir beaucoup, beaucoup de recul, tu vois, sur mes patients, sur leur pathologie aussi. Parce que bon, enfin voilà, on a vu aussi pas mal de patients partir, tu vois, et ça, c'est vrai que c'était pas facile. Bon, après, ouais, je veux dire, ça restait des personnes qui avaient fait des trucs pas bien, tu vois. Mais enfin voilà, je veux dire, en fait, à la fin, c'est ton patient et tu t'en occupes et t'es parti, quoi. Donc, du coup, c'était quand même pas facile. Ouais, moi, je pense que ça m'a vraiment appris à me blinder, tu vois, enfin, à me dire, bon, bah, en fait, vraiment, vraiment essayer de dissocier mon métier de ma vie,
Oui.
quoi. Enfin, je pense que ça m'a surtout appris ça.
Et justement, tu penses que c'est une chose positive pour toi? Tu avais besoin de pouvoir bien séparer ce côté affect avec les patients de ta vie perso?
Ouais, ah
Ouais.
oui, parce qu'en fait, enfin, bah, après, je pense que ça dépend des gens, des personnalités,
Oui.
mais enfin, c'est quelqu'un, tu sais, qui me laisse beaucoup prendre par mes émotions, par tout ça, tu vois, et c'est vrai que, bah, au bout d'un moment, en fait, tu dis, bon, bah, je peux juste pas
Oui.
continuer, en fait, à me laisser bouffer par tout ça, enfin, faut que je me détache un peu de tout ça, quoi, et c'est vrai que, ouais, moi, ça m'a, enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée, Et puis en fait, ouais, je veux dire, bah, l'orthophonie, je pense que c'est un métier passion quand même, tu vois. Enfin, c'est vraiment un métier, quand t'es dedans, t'es vraiment investi. Et enfin, moi, là, je sais, par exemple, actuellement, enfin, tu vois, même quand je travaille pas, je pense toujours un peu à l'orthophonie parce que je sais pas, genre, je vois un truc et je me dis, oh, ça serait trop bien à faire avec le petit là que je vois actuellement, machin. Enfin, tu sais, enfin, vraiment, je pense toujours à plein, plein de trucs. Et c'est vrai que bah, c'est bien aussi, tu sais, parfois de pouvoir décrocher, quoi, te dire, attends, là, je suis en repos et je ne pense plus à ça, c'est trop bien. Mais enfin oui, moi ça a pris du temps, enfin ça s'est pas fait tout de suite. Et puis ouais, je pense que c'est vraiment la principale chose que ça m'a apporté, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, tu as arrêté ton CDD pour partir au Vietnam. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là de ton expérience au Vietnam?
Bah, du coup, donc, je travaille en fait avec les élèves du lycée français de Hanoï. Donc,
Oui.
c'est pas du tout la même patientèle, ça n'a rien à
J'imagine.
voir. Là, ouais, non, franchement,
Mais
ça
oui,
n'a rien à
tu faisais
voir
que de la
du tout.
neuro en fait. Tu faisais que de la neuro finalement.
Ouais, je faisais que de la neuro. Et en fait, bah, juste avant de partir au Vietnam, j'avais fait un mois en libéral.
D'accord.
Pour avoir quand même en fait un peu une expérience avec d'autres types de patients, parce que c'est vrai que enfin j'avais besoin d'élargir un petit peu, parce que bah, si j'étais arrivée que avec mon bagage neuro, ça m'aurait un peu, je pense, bloquée pour les rééducations. Et en fait, ouais, bah là, au Vietnam, ça n'a rien à voir. Je vois des enfants, beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont en fait, tu sais, qui ont un contexte bilingue, donc
Oui.
avec des parents, en fait, de parents franco-vietnamiens qui ont beaucoup de mal à apprendre à lire, à parler aussi, en fait, en tout cas, qui ont beaucoup de mal en langage oral. Et donc voilà, enfin c'est vraiment le gros de mes rééducations. J'ai pas mal aussi d'enfants TDAH, beaucoup beaucoup, ouais,
Oui.
là je suis en train d'y penser. Et c'est vrai que non, mais enfin je me rendais pas compte en fait que qu'il y en avait autant. Et voilà, donc c'est vraiment, enfin ça a rien à voir, mais c'est aussi très très intéressant. Mais j'avoue, moi je préfère quand même les rééducations neuro.
Ouais.
Enfin, je pourrais pas l'expliquer, mais ça me parle beaucoup plus. Même si c'est vrai que là, c'est aussi gratifiant, bah, de voir des enfants progresser, d'avoir des retours des parents qui me disent, bah ouais, à l'école, ça se passe quand même beaucoup mieux et tout, depuis qu'il fait des séances. C'est chouette aussi à entendre.
Et là, du coup, tu parles de lycée français. Est-ce que c'est que des lycéens ou lycée français, c'est pour tous les âges?
Alors, oui, ouais, non, c'est vrai que lycée français, c'est pas que des lycéens. En fait, moi, tu vois, les enfants que je vois, ça va de 4 ans. Non, 5 ans. Bon, bref, 4-5 ans, quoi, jusqu'à 17 ans.
Ah oui, d'accord,
Donc,
ok.
vraiment de tout. Ouais. En fait, le lycée français, ça s'appelle comme ça, mais en fait, ils ont bah, la maternelle, la primaire, le collège et le lycée. Ils ont tout. C'est juste après le bac, après, il faut que les enfants trouvent un autre, une
Cursus.
autre filière, ouais, exactement, un autre cursus. En tout cas, ils ne peuvent pas rester à Hanoï, mais ouais,
Ouais.
j'ai voir ce cas-là.
Ok. Et est-ce que tu sens que ouais, là, ça te manque de travailler dans la
Ah ouais.
prison, de travailler en euros?
Alors, ça me manque pas de travailler dans la prison.
Ouais.
Franchement, je pense que j'étais quand même contente d'arrêter parce que
D'accord.
même, tu vois, si tu apprends à prendre du recul, à pas, en fait, à te blinder par rapport à toutes les, en fait, à toutes les personnes que tu vois, bah, en fait, je veux dire, tu vois, ça reste quand même, enfin, tu es toujours un peu en tension quand même, je trouve,
Oui.
tu vois. Donc, moi, j'étais quand même contente enfin, comment dire, j'étais contente d'arrêter. J'étais triste de quitter les équipes, mais contente d'arrêter en tout cas ce milieu-là. Mais par contre, ouais, enfin, moi, enfin, là, en fait, nous, on va revenir avec mon copain en France en fin mai, début juin. Et
Oui.
enfin, moi, je sais que j'essaie de retravailler en euros. Alors, je sais pas encore si je vais me mettre en libéral ou en salariat, mais en tout cas, ouais, je sais que j'essaie de avoir une patientèle majoritairement en euros. Même si j'ai beaucoup aimé, attention, hein, tout ce qui est langage écrit, langage oral, c'est très intéressant, mais.
Ouais, toi, c'est la neuro qui te botte vraiment. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie de travailler dans les prisons? Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que j'avais mis un message justement pour pouvoir sur Facebook pour pouvoir trouver quelqu'un qui peut témoigner. Et en fait, j'avais eu ton contact, donc j'étais très contente. Et il y avait plein de personnes qui après avaient demandé est-ce que tu as pu avoir plus de contacts? Alors, donc on les redirigera ici pour qu'elles puissent en écouter plus déjà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que je pense qu'il y a plein de choses peut-être qu'on se fantasme, qu'on imagine. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour ces personnes qui hésitent ou qui se questionnent?
En fait, alors après, bon, moi là, c'est vraiment une expérience très spécifique parce que c'est l'hôpital. Enfin, tu vois, je sais pas du tout comment ça se passe en fait si tu vas dans une
Oui.
prison vraiment classique.
Oui.
Mais je pense que vraiment, moi, tu vois, ce qui a fait que mon expérience était bien, c'est que vraiment les équipes autour de moi étaient top, tu vois. Enfin, elles étaient super motivées. Et ça, franchement, je pense que ça change tout parce que, tu vois, en fait, si tu es dans un environnement hostile, du coup, qui est à la prison. Avec des équipes, tu vois, qui sont pas hyper motivées, enfin voilà quoi, qui sont peut-être un petit peu blasées de ce qu'elles font et tout, forcément c'est pas hyper agréable. Mais par contre, quand t'as des équipes qui sont très intéressantes, je veux dire qui sont motivées quoi, tu vois, pour faire des choses, qui ont des projets en tête et puis surtout en fait qui sont bienveillantes. Enfin ça, je pense que c'est le plus important.
Oui.
Quand même, c'est quand même un bon point. Donc peut-être essayer de voir comment ça se passe autour, avec qui tu peux être amené à travailler. Voilà, ça je pense que c'est bien. Et puis en fait, après, au-delà de ça, c'est de bien garder en tête qu'en fait, même si effectivement tu as affaire à des personnes qui sont incarcérées, qui ont potentiellement fait des choses, voilà, quoi, je veux dire, absolument répréhensibles voilà, je pense que c'est des personnes parfois, tu vois, qui peuvent être inquiétantes, tu vois. Moi j'ai vraiment des souvenirs par exemple de détenus parfois, enfin quand je savais que je devais les voir, je me disais ah non, enfin voilà, tu vois, faut que je vois et tout, j'ai pas envie, mais bon tu y vas quand même parce que c'est ton métier quoi.
Oui.
Je pense qu'il faut bien aussi garder en tête que en fait c'est quand même des personnes qui ont vraiment besoin, tu vois, de ces rééducations-là et qu'en fait, face à toi, vraiment, ils redeviendront des patients lambda. Enfin, moi,
Oui.
tu vois, maintenant que je suis en train d'y repenser, je me dis, mais c'est vrai que quand j'étais en rééducation, le côté détenu, tu vois, du patient détenu, en fait, il prenait vraiment une toute petite place dans ma tête. Enfin, je veux dire, tu vois, en fait, en face de moi, j'avais vraiment un patient qui avait besoin, tu vois, de la rééducation. Et je pensais plus du tout, tu vois, au fait que c'était un détenu, au fait qu'il était en prison, qu'il avait fait des trucs, tu vois. Et ça, je pense que ça aide aussi pas mal, du coup, à prendre du recul et à prendre, je veux dire, et vraiment à faire son métier à fond, quoi.
Oui, c'est
À
ça,
fond.
parce que là, dans ce rôle-là d'ortho, enfin, t'es pas, on n'est pas justicière, c'est pas à nous de décider ce qui est bien, ce qui est pas bien.
Exactement,
Et
ouais.
ils sont déjà en train de faire pénitence, quoi. Donc
Oui, c'est
après,
ça,
ouais,
ouais.
c'est des patients aussi, ouais. Mais c'est super intéressant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On arrive à la
Ben.
dernière question du podcast. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
Du coup, ça dépend des auditeurs et des auditrices, mais si c'est des orthos, écoute, c'est une bonne question. J'avoue, j'avais pas trop réfléchi à cette question. Enfin, j'ai vu et je
J'aime
me
que
suis
ça
dit,
soit naturel.
qu'est-ce que je t'ai dit? Non, c'est que moi je trouve franchement, je vois qu'on fait vraiment un chouette métier. Je pense qu'il faut pas avoir peur parfois, tu vois, de sortir un peu de l'ordinaire, tu vois. J'espère que c'est pas trop bateau ce que je dis, mais parfois, je pense qu'on peut avoir l'occasion de faire des trucs un petit peu innovants, un peu nouveaux, tu vois, auxquels on n'aurait pas pensé. Je pense qu'il faut pas avoir peur de le faire. Faut se lancer si on a l'occasion de le faire parce que c'est des expériences, tu vois, je trouve qui apportent toujours beaucoup, tu vois. Et enfin là, par exemple, je pense à mon expérience à Fresnes et même à mon expérience au Vietnam aussi, tu vois,
Oui.
qui sont, je pense que quand tu as l'occasion de faire un truc un petit peu un peu original, il faut y aller. Et puis de toute façon, si jamais ça fonctionne pas, c'est ça l'avantage de l'orthophonie, c'est qu'en fait tu peux toujours te retourner pour faire un truc un peu plus classique, un peu plus rassurant aussi. Tu vois, c'est pas impossible. Et donc si jamais il y a des postes d'ortho qui s'ouvrent dans des prisons, j'avoue, je sais pas trop du coup comment ça fonctionne hors PSNF, mais franchement, si les équipes sont sympas, que tout a l'air bien sécurisé, tout ça, franchement, foncez parce que c'est une super expérience. Et puis même, moi je trouve que ça a le mérite aussi de faire connaître l'orthophonie aussi un peu différemment, tu vois, enfin un peu au-delà des clichés qu'on peut avoir sur le métier, parce que moi, franchement, trois quarts du temps, quand je dis que je suis orthophoniste, bon, déjà, on confond avec les podologues, mais bon, ça, je pense que ça arrive bien, tu vois.
Là,
Je
je
dis, ah
comprends
oui, c'est
pas.
pour les pieds, mais moi non plus, ça me dépasse. Je me dis, non, orthophonie, les pieds, ça n'a rien à voir. Donc, il y a ça, et puis en fait aussi, enfin, tu sais, souvent, quand tu parles de l'orthophonie, on te dit, ah oui, c'est pour les enfants qui ne savent pas parler, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Bon, déjà, c'est un peu différent quand même, enfin, c'est. Il y a quand même une bonne nuance à apporter à ça, mais je trouve ça aussi bien, tu vois, de montrer qu'en fait, non, on agit vraiment dans plein plein de champs de ouais en fait d'action quoi de prise en charge et ça je pense que c'est important aussi de le rappeler quoi parce que bah enfin voilà en fait moi je pense qu'on a un métier vraiment plus qu'essentiel sans vouloir nous envoyer des fleurs et
Mais je trouve que oui, effectivement.
il faut vraiment tu vois je pense qu'en fait il faut se enfin en fait j'ai un peu l'impression qu'il faut constamment se battre tu vois pour le rappeler quoi donc voilà, donc vraiment, si vous avez l'occasion un peu d'élargir le champ des possibles,
Ouais.
allez-y
Ah,
pour
mais
nous faire
complètement. Je te rejoins vraiment sur cette idée, enfin,
connaître.
de nous faire connaître dans le plus d'endroits possible et qu'on soit vraiment présente sur le terrain à d'autres endroits où on n'est pas forcément attendu. Je trouve ça hyper important. Donc, c'est trop chouette. Et toi, tu as participé aussi à ton échelle. Ben, en
Je
tout cas,
remercie encore ma
un
maître de
merci.
stage.
Merci, Virginie.
Absolument.
Eh ben, merci à toi, Clémentine, pour cet épisode. C'était hyper intéressant et je pense que y a plein de personnes qui se posent des questions justement sur cet univers parce que c'est, enfin ouais, c'est un petit peu, comment dire, c'est inédit. On n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe en fait derrière les portes. Donc du coup, ça va être hyper intéressant de le découvrir en écoutant ce podcast avec toi. Et encore un grand merci.
Bah, merci à toi. J'espère que j'ai été assez complète dans mes réponses et que, enfin, voilà, que j'étais assez claire et que j'ai donné un peu envie aux orthophonistes de découvrir un peu autre chose.
Eh bien, écoute, je
Si
pense que
ça
c'est
marche.
complètement le cas.
Merci
Au revoir,
beaucoup.
Clémentine.
Au revoir, Sarah. Merci.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux orthophonistes.